Monique Kerouac, dites-nous tout ou presque sur les protéines tant aimées et pourtant.
Et pourtant. Et oui. Alors, c'est un article qui a été publié, Hélène, dans la Conversation du 26 janvier 2027. 26, pardon. Je me projette. Et c'est sous la plume de Stuart Phillips, qui est kinésiologue, mais aussi responsable de la chaire de recherche de niveau 1 sur la santé du muscle squelettique à l'Université de McMaster. Alors, il y a 30 ans, lorsque Stuart Phillips a commencé à étudier le métabolisme des protéines, il n'aurait jamais imaginé qu'en 2025, il passerait l'essentiel de son temps à expliquer pourquoi consommer davantage de protéines n'est pas toujours préférable. Il faut rappeler que pendant longtemps, les protéines ont été le macronutriment discret. Celui dont on présumait qu'il était forcément consommé en quantité suffisante. Les glucides ont connu leur heure de gloire, tout comme les lipides. Alors, je rappelle que les glucides, c'est les sucres rapides que l'on ingère, alors que les lipides, mais ce sont les graisses comme les huiles ou le beurre. Les protéines sont arrivées plus tard dans le cycle des obsessions nutritionnelles et M. Phillips avoue d'abord avoir apprécier l'attention. En 2025, les protéines alimentaires ont franchi pour lui la ligne qui sépare la nutrition fondée sur des données probantes d'une mise en scène spectaculaire. En 2025, également, les protéines sont devenues un nutriment prétendument universel. Protéines pour la perte de graisse, protéines pour la longévité, pour la perte de poids, pour l'équilibre hormonal, pour la ménopause, pour les personnes sous médicaments qui traitent le diabète et l'obésité, pour protéines pour les personnes qui font de l'exercice, pour les personnes qui n'en font pas. Des protéines partout et toujours avec le même refrain, plus il y en a, mieux c'est. Malgré la présence de voix influentes promouvant une consommation très élevée de protéines, les données scientifiques, elles, n'ont pas fondamentalement évolué. Ce qui a changé, ce sont les discours, leur omniprésence et leur intensité. Si les protéines sont si souvent surestimées, c'est parce que leurs effets sont bien réels, mais fortement conditionnels. Elles soutiennent la fonction musculaire et l'adaptation à l'effort, mais elles n'agissent jamais seules. Le professeur Phillips présente l'analogie suivante. Ce n'est pas la protéine qui fait le gâteau, c'est l'exercice. La protéine, c'est le glaçage, parfois même seulement les décorations. Une fois le gâteau correctement glacé, ajouter davantage de glaçage, ben ça fait peut-être plaisir aux enfants ou aux adultes qui aiment le glaçage, mais ça ne se transforme pas en autre chose. À partir d'un certain point, on ne fait plus corner. La biologie est jalonnée de plafonds d'efficacité. Les protéines n'y échappent pas. L'apport nutritionnel recommandé de 0,8 g de protéines par kilogramme de poids corporel par jour n'a jamais eu pour objectif d'optimiser la masse ou la force musculaire, ni de favoriser un vieillissement en santé. Il s'agit d'un seuil minimal conçu pour maintenir l'équilibre azoté de l'organisme. Cet indicateur est utilisé parce que les protéines constituent la principale source d'azote dans notre alimentation. Au cours des deux dernières décennies, de nombreux chercheurs ont soutenu qu'un apport plus élevé pouvait être pertinent dans certains contextes. Un apport de 1,2 à 1,6 g par kilogramme, soit de poids corporel par jour, semble effectivement favoriser le maintien et l'adaptation musculaire, mais uniquement lorsqu'elle est combinée à des exercices de résistance. Or, dans l'engouement protéique de 2025, un point essentiel a été largement oublié. Il n'existe aucune preuve solide et cohérente justifiant de dépasser cette fourchette pour la majorité de la population. Oui, et ça inclut les personnes en perte de poids et celles qui s'entraînent intensément plusieurs fois par semaine. Les méta-analyses regroupant des dizaines d'études sur l'entraînement par résistance montrent de façon constante que les bénéfices des apports protéiques supplémentaires plafonnent autour de 1,6 g par kilogramme poids corporel par jour. Au-delà, ni la masse maigre ni la force n'augmentent de manière significative. Je vous dirais que la masse maigre, c'est le poids total moins la masse grasse. Et bon, on ne peut pas mesurer ça soi-même. Là, c'est des appareils spécialisés qu'on peut trouver dans les centres d'entraînement, entre autres, ou chez le médecin peut-être, je ne sais pas, qu'on peut mesurer cette masse maigre. Ce constat ne fait pas débat dans la littérature scientifique, même si elle est devenue controversée dans l'univers des influenceurs. Les protéines, ce sont les briques. La musculation, c'est l'équipe de chantier. Alors, vous pouvez livrer des briques toute la journée, sans plan ni ouvrier, rien ne sera construit. Chez les personnes qui ne pratiquent pas d'exercice de résistance, augmenter l'apport en protéines au-delà d'un seuil minimal entraîne des changements négligeables, voire inexistants, de la masse maigre. Lorsque l'exercice de résistance est présent, ben un apport protéique plus élevé peut améliorer modestement les gains de masse maigre et de force, mais ces effets sont limités et atteignent rapidement un plateau. Là encore, plus n'est pas nécessairement mieux. L'enthousiasme autour des protéines a été particulièrement marqué dans les discours sur la perte de poids. On leur a prêté la capacité d'accélérer le métabolisme, de faire fondre les graisses, de prévenir la prise de poids en périménopause ou de supprimer durablement l'appétit. Ben, ces promesses sont attrayantes, mais largement exagérées. Les protéines ne provoquent pas à elles seules une perte de poids. Celle-ci repose avant tout sur un déficit énergétique. Elle n'augmente pas de manière significative la dépense énergétique à long terme. Et si elles peuvent réduire l'appétit à court terme, ces effets s'estompent souvent avec le temps pour ne laisser qu'un bénéfice global tout à fait modeste. Sans entraînement de résistance, un apport protéique élevé pendant une phase de perte de poids a très peu d'effet. L'exercice physique demeure le principal déterminant pour préserver la masse maigre. Les protéines n'en sont qu'un complément. Alors, pourquoi cet engouement protéique s'est-il produit en 2025? Ben, l'hypothèse de Stuart Phillips, la plus plausible, est qu'il faut souvent environ 17 ans pour que les données scientifiques robustes s'infiltrent réellement dans la conscience collective et les pratiques du grand public. Peut-être alors que l'écosystème des réseaux sociaux avait simplement besoin de temps pour faire ses propres recherches, c'est-à-dire lire des articles et tirer ses conclusions, afin de rattraper ce que les chercheurs en physiologie des protéines savent depuis des décennies. Mais les réseaux sociaux ont la capacité à déformer les messages et pas nécessairement dans le bon sens. Comme une autre leçon de 2025 l'a tristement rappelé, la science, et surtout ses nuances, est rarement bien représentée en ligne. Les protéines, par ailleurs, sont importantes. Elles l'ont toujours été. Elles soutiennent les muscles, les fonctions physiologiques et la santé tout au long de la vie. De nombreuses personnes, en particulier les personnes âgées ou d'un certain âge, gagneraient sans doute à consommer davantage que l'apport nutritionnel de référence, soit celle de 1,8 g par kilogramme corporel par jour. Mais 2025 n'a pas été l'année où les protéines ont enfin obtenu la reconnaissance qu'elles méritent. Les protéines facilitent l'adaptation. Elles ne la déclenchent pas. Elle contribue à préserver les tissus maigres qui ne se confondent pas avec la masse musculaire lors d'une perte de poids, mais elle ne provoque pas la perte de graisse. Et au-delà d'un certain seuil, plus de protéines signifie simplement plus de protéines, pas davantage de bénéfices. La science des protéines n'a pas besoin d'être réinventée. Elle a simplement besoin d'être entendue de nouveau. Alors, j'espère que nos auditrices et auditeurs auront bien entendu et pourront à leur tour prendre la bonne décision à l'égard de la quantité de protéines qui seront requises pour maintenir leur bonne santé.
Message reçu, on a perdu un mot, les protéines, dis-je bien, facilitent l'adaptation. Le mot facilite a été masqué par je ne sais trop, un problème de son quelconque. Merci beaucoup Monique, et je retiens que la protéine, c'est pas du gâteau et que...
C'est le glaçage.
Et que les protéines sont les briques, mais la musculation, c'est l'équipe de chantier. C'est très imagé. Ça fait en sorte qu'on comprend mieux la chose. Merci beaucoup.
Oui, merci au professeur Phillips.
Oui,